Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le ministre de la Santé a promis 2 milliards de couronnes aux médecins. Le chef de la diplomatie a rencontré le nouvel ambassadeur américain en République tchèque. Le ministre de la Défense, Alexander Vondra, est mis en cause dans une affaire de contrat public. Ce vendredi, le ministre de la Santé, Leos Hegre, a promis de dégager une somme totale de 2 milliards de couronnes tchèques pour permettre de mieux rémunérer les docteurs exerçant leur profession dans les hôpitaux publics. Une étape majeure dans les négociations, a commenté Martin Engel, leader du syndicat des médecins ayant organisé la campagne Merci, on s'en va, dans le cadre de laquelle près de 4000 médecins ont donné leur démission pour protester contre leur faible rémunération et la lenteur des réformes dans le secteur de la santé. Le Premier ministre Petr Nečas s'est félicité de cette proposition du ministre de la Santé, mais selon lui, les moyens financiers dégagés ne devraient pas être distribués uniquement aux médecins. Le chef du gouvernement s'est également opposé à l'idée des garanties de la part de l'État, garanties que revendiquent les médecins qui craignent de ne pas pouvoir reprendre leur démission. Le consensus entre le ministère de la Santé et les représentants des médecins sera encore discuté au gouvernement, a indiqué Petr Nečas. Une première rencontre officielle a eu lieu ce vendredi entre le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg et le nouvel ambassadeur américain à Prague, Norman Eisen, qui avait dans la matinée présenté ses lettres de créance au président Klaus. Le poste d'ambassadeur américain était resté vacant de longs mois après le départ de son prédécesseur. Dans une interview pour les médias tchèques, Norman Eisen a présenté ses priorités, parmi lesquelles le projet d'achèvement de la construction de la centrale nucléaire tchèque de Temelin par la société américaine Westinghouse. L'actuel ministre de la Défense, Alexander Vondra, a été mis en cause dans une affaire qui concerne des contrats passés avec des sociétés privées en 2009, lorsqu'il était ministre des Affaires européennes pendant la présidence tchèque de l'Union européenne. C'est le département d'analyse financière du ministère des Finances qui vient de demander à la police anticorruption d'enquêter sur des contrats d'un montant total de 766 millions de couronnes, passés notamment avec la société Promopro. En sport, la Tchèque Martina Sablikova, double championne olympique, a remporté la course de 3000 mètres devant la Néerlandaise Irene Wurst vendredi en Coupe du monde de patinage de vitesse de Moscou. Il s'agit de la première victoire de Martina Sablikova en Coupe du monde de cette saison. Et à l'Open d'Australie, le Tchèque Jiří Veselý, 17 ans, affrontera l'Australien Luke Saville samedi en finale junior. Pour ce week-end, la météo annonce un temps plutôt ensoleillé avec quelques nuages épars. Les températures seront en baisse, elles varieront entre moins 5 et moins 1 degré. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité en cette fin de semaine, la promesse tout d'abord faite par le ministre de la Santé aux médecins hospitaliers du pays. 2 milliards de couronnes ou 85 millions d'euros, c'est la somme qu'il entend consacrer au salaire des docteurs dont plusieurs milliers ont déjà donné leur démission dans le cadre de la campagne intitulée « Merci, on s'en va ». La population tchèque serait la population européenne la moins menacée par la pauvreté. Plus d'explications dans quelques instants. Et puis nous terminerons sur une note culturelle avec de la danse contemporaine et un spectacle tchèque en France. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons, où que vous soyez dans le monde, la meilleure réception possible de notre programme. Après des semaines de pression et de bras de fer, les négociations entre le gouvernement et les médecins mécontents de leurs conditions de travail et de leur salaire semblaient aboutir ce vendredi à un compromis. 2 milliards de couronnes, soit environ 85 millions d'euros, c'est la somme promise par le ministre de la Santé aux docteurs, dont plusieurs milliers ont déjà donné leur démission dans le cadre de la campagne intitulée « Merci, on s'en va ». Alexis Rosenzweig pour plus de détails.
Les dernières négociations se sont déroulées ce vendredi matin entre le ministre de la Santé, Leos Hegre, et les représentants des médecins. Elles ont duré plus de temps que prévu et c'est avec près de 2 heures de retard que les protagonistes se sont présentés devant la presse. Nous avons trouvé à l'intérieur du système de santé un moyen de dégager la somme de 2 milliards de couronnes, dont la majorité sera reversée aux médecins. C'est ce qu'a tout d'abord indiqué Leo Scheger, le ministre, qui s'est mis d'accord la veille avec les caisses d'assurance maladie pour supprimer 10 000 lits dans les centres hospitaliers du pays. Je renouvelle mon appel et demande à tous les médecins qui ont donné leur démission de la reprendre, a poursuivi le ministre, qui craignait que la situation dans les hôpitaux du pays ne devienne catastrophique après le 1er mars, date à laquelle prenaient effet les démissions données par 3 800 des 20 000 médecins que compte le secteur public tchèque. Pour les représentants des docteurs, il faut cependant que le gouvernement apporte encore des garanties. Il ne faut pas que le résultat de ces négociations soit que ceux qui ont donné leur démission ne retrouvent pas leur travail et que ceux qui sont restés voient leur salaire augmenter, souligne Martin Engel. Il est le chef d'un des syndicats en première ligne de la campagne « Merci, on s'en va ». Pour Milan Kubek, le président de la Chambre des médecins, il faut que le gouvernement garantisse encore certains points. On l'écoute.
Il faut qu'il y ait une garantie que cette somme de 2 milliards sera distribuée dans les faits aux médecins sous la forme d'une augmentation de salaire et que cet argent ne sera pas utilisé pour acheter des médicaments surévalués et dans des appels d'offres bizarres. Et puis il faut garantir à ceux qui reprendront leur démission qu'ils pourront retrouver leur emploi.
Et les représentants des médecins ont indiqué qu'ils se donnaient jusqu'à mardi prochain pour étudier les propositions du ministre et y donner suite.
Seuls 8,6% de la population tchèque serait menacée de pauvreté contre 16,3% de la population européenne. En croire une étude réalisée par l'Institut allemand des statistiques, dont les résultats ont été communiqués mercredi, les Tchèques seraient donc le peuple le moins menacé par la pauvreté parmi les pays membres de l'Union européenne. La Lettonie, avec un quart de sa population, suivie de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Lituanie et de l'Estonie, sont les pays les plus menacés parmi les nouveaux membres de l'Union européenne, tandis que la Grèce et l'Espagne, avec environ un cinquième de leur population, figurent, elles, en bas du classement parmi les anciens États membres. Pour établir ce classement, l'Institut allemand des statistiques a pris en compte les données pour l'année 2008, en Europe, le seuil de pauvreté est établi grâce à une méthode de calcul tenant compte du niveau de vie des pays. Concrètement, est utilisée une fraction du revenu médian, à savoir le revenu qui partage exactement en deux une population. Cette fraction s'élève à 60% pour Eurostat, l'institut en charge des statistiques de l'Union européenne. En République tchèque, ces 60% du montant médian représentent 4 377 euros annuels ou 365 euros mensuels. À titre de comparaison, le seuil de pauvreté relative se situe à 1 297 euros annuels en Roumanie contre 11 150 euros en Allemagne et un peu plus de 19 000 au Luxembourg. Tous ces chiffres sont cependant à prendre avec des pincettes, comme l'explique Martin Poltuček, professeur à la faculté des sciences sociales de l'Université Charles à Prague. On l'écoute.
Il ne s'agit pas du seuil de pauvreté absolue. Dans le monde, on utilise pour cela un seuil de 2 dollars par personne et par jour. Ici, il est question de quelque chose de complètement différent. Ainsi, quelqu'un peut être considéré comme riche en République tchèque, mais avec le même revenu, il sera rangé dans la catégorie des pauvres, par exemple en Autriche. En réalité, si l'on considère ce que les gens peuvent se permettre d'acheter ou de payer avec leur revenu, on voit bien que les Tchèques ne sont pas les mieux lotis en Europe, loin de là même.
Comme le rappelle également Martin Poltuček, le montant moyen des revenus des Tchèques reste actuellement 2 à 3 fois inférieur à celui des revenus en Autriche, en Allemagne ou encore en Belgique. Preuve que le niveau de vie général y reste encore assez nettement moins élevé. La catégorie de la population tchèque la plus menacée par la pauvreté sont les familles où un seul parent travaille, les mères s'occupant de 2 à plusieurs enfants et percevant un salaire nettement inférieur à la moyenne nationale sont aussi les plus nombreuses à se retrouver en situation de pauvreté. Ce vendredi soir, le théâtre du Colombier à Bagnolet en France présente un spectacle de danse contemporaine de la danseuse et chorégraphe Andrea Miltnerova. Ce spectacle est le résultat d'une collaboration franco-tchèque à dimension européenne entretenue par la danseuse française Marie Kinski qui nous en dit plus.
La compagnie qui est invitée aujourd'hui n'est pas une compagnie comme très souvent dans le secteur indépendant tchèque. C'est-à-dire que c'est une personne, une chorégraphe, Andrea Milnerova, qui a choisi de réunir autour d'elle une équipe pour un projet précis, qui est donc son premier projet, qui s'appelle le corps baroque révélé, Baroknitel Odhaleno. Elle se pose par là une question qui est assez intéressante, à savoir qu'est-ce que le corps baroque, de façon à essayer de retrouver une certaine réalité concrète, une certaine sensation, une certaine sensibilité par rapport à cette époque et par rapport à cette danse.
Alors c'est quelque chose qui est quand même très imprégné finalement de culture tchèque, hein, parce que le baroque est très... disons que la culture tchèque est très imprégnée de baroque, en tout cas il suffit de regarder Prague.
Ah ben ça c'est absolument évident et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans le fait de faire venir une chorégraphe baroque en République tchèque, très particulière, qui s'appelle Béatrice Massin et qui a un regard, un vrai regard culturel sur la façon dont l'histoire explique le présent et non pas conditionne mais enrichit le présent et le permet au présent d'être créatif. C'est comment intégrer le passé et comment intégrer une culture à la créativité du présent.
Ce spectacle donc de Andrea Milnerova est présenté ce soir à 20h30, c'est ça?
Ce spectacle est présenté ce soir à 20h30 au Théâtre du Colombier de Bagnolet, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Jamais Vu. Il présente donc des jeunes chorégraphes européens au public parisien qui n'a donc jamais vu.
Alors vous-même, puisque vous dites que ce festival présente des jeunes chorégraphes européens, vous-même participez ou avez fondé en tout cas un projet, Correspondance Europe. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette plateforme ?
Exactement, Correspondance Europe c'est une plateforme, c'est un projet que j'ai monté et dont le but est d'aider les jeunes chorégraphes européens, français, tchèque, allemand et slovaque, puisque ce sont les quatre partenaires du projet, à se développer et à connaître davantage quels sont les outils à leur disposition pour développer leur propre créativité, leur propre métier. Et donc, nous avons imaginé plusieurs types de projets de développement, à savoir des stages de coaching, à savoir des résidences pour les jeunes artistes, mais accompagnés par des mentors plus expérimentés, à savoir des commandes qui sont passées à quatre chorégraphes expérimentés qui ont utilisé comme interprètes de jeunes chorégraphes, ces jeunes chorégraphes pouvant ainsi suivre de très très près le processus de création de leurs aînés, et ensuite des festivals dans chaque pays. Le festival qui va lieu ce soir, Jamais Vu, à Paris, et donc fait donc partie de ce programme.
Et dans ce cadre d'ailleurs, on peut citer quand même aussi une autre date, et le 2 février au Théâtre
exactement.
De Vanves, de quoi s'agit-il exactement?
Alors il s'agit de la présentation d'une des commandes que nous avons faite à un chorégraphe allemand qui s'appelle Helge Lettonia, et qui a travaillé avec deux jeunes interprètes chorégraphes français, et dont le travail va être présenté le 2 février au Théâtre de Vanves à 19h30.
Je suppose évidemment que comme dans tous les arts, il y a des écoles et des types d'écoles. Est-ce qu'on pourrait un petit peu définir quelles sont un peu les caractéristiques de l'école française de danse et de l'école tchèque de danse, où c'est très difficile à qualifier?
Je parlerai plus de grande direction, puisque justement ce type de projet essaye d'éviter le terme d'école, essaye simplement de partager des savoir-faire, que chaque pays puisse aller plus dans sa propre direction. Je dirais que la France, de par son histoire beaucoup plus longue en la matière de création contemporaine, a développé énormément d'outils. Il connaît beaucoup plus les différentes étapes de création. Mais dans la mesure où l'histoire est longue, la France pâtit aussi de la lourdeur de son histoire qui permet peu à des jeunes créateurs de se lancer. Ce qui est absolument la situation inverse en République tchèque, à savoir qu'il n'y a pas de tradition lourde de danse contemporaine. C'est une longue page d'histoire qui manque pour la République tchèque. Donc, pas de lourdeur de l'histoire, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, qui rafraîchit énormément les Français, ça c'est absolument merveilleux, d'où l'intérêt de cette collaboration. En revanche, peu de connaissances des outils, peu de connaissances des étapes de développement, et donc c'est ça qu'on essaie d'apporter aux Tchèques, alors que les Tchèques apportent leur enthousiasme, toutes les portes qu'ils essayent d'ouvrir dans tous les sens, qui est une merveille pour les Français.
C'était la danseuse française Marie Kinski, elle répondait aux questions d'Anna Kubichta. Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Comme chaque vendredi, place maintenant à l'économie. Le jeu vidéo Mafia, sorti en 2002, vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, est une vraie success story. Le jeu a été développé à l'époque par un petit studio d'informatique tchèque, basé à Brno, qui s'est depuis agrandi pour devenir la société 2KCzech. 2KCzech est aujourd'hui dirigé par un Français, Stéphane Dupas, qui est venu en décembre dernier nous rendre visite dans les studios de Radio Prague pour répondre aux questions d'Anne Clairveluire.
Économie, commerce.
Bonjour Stéphane Dupas. Stéphane Dupas, vous êtes président de la société 2KCzech, une société de développement de jeux vidéo qui est basée ici en République tchèque. Je me trompe déjà ou
Non, bonjour. Vous avez, jusque-là, vous avez tout bon.
D'accord. La société s'est fait connaître notamment avec le succès d'un jeu vidéo qui s'appelle Mafia, qui a été un vrai succès international. Avant de parler de ce jeu vidéo, je vais vous laisser tout simplement nous présenter un peu cette société.
Alors, notre studio de développement a été créé en 1996 par des Tchèques qui avaient envie de se lancer dans l'industrie du jeu vidéo et de démontrer un peu la créativité du pays. C'est à cette époque-là qu'ils ont décidé de faire ce jeu Mafia 1, qui a été effectivement un succès partout dans le monde, y compris aux États-Unis, qui a vendu des millions d'exemplaires. Suite à ce succès-là, ils ont pu faire d'autres jeux, jusqu'à aujourd'hui, où on est un des studios les plus grands en Europe, avec 200 employés. On continue à développer le concept Mafia avec les créateurs originaux du jeu. Et on appartient aujourd'hui à un grand groupe américain, qui est numéro 4 dans le monde de l'édition du jeu vidéo.
Alors je vous concède que quand j'ai contacté la société Mafia, je m'attendais à trouver des interlocuteurs, on va dire, uniquement tchèques, et je me retrouve avec un président de la société qui est français. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous êtes venu ici en République tchèque et comment vous en êtes venu être le président de 2KCzech?
Alors ce qui est important de garder en mémoire, c'est que bien qu'aujourd'hui il y a un Français qui soit directeur du studio, ce sont bien des Tchèques qui sont à l'origine du design, des graphismes, de l'aspect cinématographique, de l'histoire du jeu. Il se trouve que quand en 2008, le studio a attiré l'attention de la société américaine, il se trouvait que je travaillais pour cette société dans un autre pays, à faire d'autres projets, et que quand ils m'ont proposé de rejoindre la République tchèque, de pouvoir participer à Mafia, de pouvoir faire grandir ce studio, on a souhaité, quelques-uns de mes collègues et moi, venir et tenter l'expérience ici. Donc ce qu'on essaie de leur apporter, c'est notre expérience de 15 ans du jeu, d'organisation, de méthode, et d'essayer de combiner notre expérience et leur créativité pour faire de nos projets les jeux les plus intéressants du monde.
Les compétences des développeurs de jeux vidéo français sont connues dans le monde entier, c'était pas forcément le cas pour les Tchèques, et en même temps c'est eux qui ont réussi à faire vraiment ce succès-là, ce Mafia. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler justement des développeurs tchèques? Est-ce que dans le monde du jeu vidéo, c'était connu qu'ici en République tchèque, des jeunes gens, j'imagine, travaillaient sur ce projet et avaient des compétences en matière de développement de jeux vidéo qui étaient connues?
Alors, je dois quand même reconnaître que l'équipe avec laquelle on a la chance de travailler, c'est un peu une exception, en fait, en Europe centrale, puisque l'Europe centrale, elle est plutôt connue pour sa sous-traitance dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a des ingénieurs de talent, il y a des graphistes de talent, mais en général, il y a très très peu d'équipes qui ont eu la chance ou le talent de pouvoir faire leur propre titre. Donc si on regarde l'industrie du jeu en Europe de l'Est et en Europe centrale globalement, même au-delà de la République tchèque, on est vraiment le seul studio qui aujourd'hui est en mesure de faire des produits qui vendent des millions d'exemplaires aux États-Unis par exemple. C'est pas quelque chose qu'on peut retrouver en France où on a Ubisoft, on a une densité de studios assez grande. Ici, c'est beaucoup de sous-traitance. En fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement un peu du succès de Mafia? Qu'est-ce qui a fait le succès de ce jeu?
Ce qui a fait le succès de Mafia, le premier, c'est vraiment une approche complètement fraîche par rapport au marché, de quelque chose qui combine des éléments interactifs très ambitieux, puisqu'on a une ville ouverte énorme dans laquelle on peut conduire, marcher, interagir avec des piétons, vivre une vie quasiment quotidienne, avec en même temps un contenu cinématographique, un héros qui a une histoire, à qui il arrive des choses qui sont intéressantes, qui va interagir avec des personnages qui sont en couleur, qui vont le surprendre, qui vont le trahir parfois, et c'est combinaison de ce que l'interactivité peut amener de mieux en termes d'ambition, avec un contenu qui est vraiment distrayant, hollywoodien pratiquement, c'est ça qui fait en fait le succès de la franchise, avec une thématique de gangster qui est, comme on l'imagine assez vite, assez propice à de l'action, des choses intéressantes, assez renouvelées à faire.
Est-ce que le fait d'être racheté par une grande société internationale, c'est pas un risque, on va dire, d'étouffer cette créativité ?
Si, c'est un risque d'étouffer cette créativité, bien sûr, et on passe énormément de temps à faire en sorte que ça n'arrive pas, sachant que, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres industries qui sont autour de l'informatique ou de l'industrie, il y a beaucoup de sociétés étrangères qui viennent ici en République tchèque pour faire de la sous-traitance, pour déléguer une partie de leurs activités, pour des raisons salariales, pour des raisons de proximité, de transport, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique. C'est-à-dire que, en tant qu'éditeur, ce qui a intéressé les Américains, c'est le talent des gens aujourd'hui. C'est de leur donner plus de moyens pour s'exprimer encore mieux sur ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, le propos, c'est plutôt de grandir le studio, d'aller au-delà de 200 personnes, de leur donner plus de projets et plus de possibilités de s'exprimer. Donc, le risque, il est là, mais c'est vrai que l'intention, elle est vraiment l'opposé. De ça.
Le talent des jeunes programmeurs, graphistes, est-ce qu'il est encouragé, développé en République tchèque ? Je veux demander par là, est-ce qu'il y a des bonnes écoles pour tout ce qui est développement informatique ici ?
C'est un petit peu difficile. Je pense qu'en République tchèque, il y a une culture graphique qui est assez intéressante. On trouve des écoles qui forment des gens au métier de l'animation, par exemple. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de sous-traitance, d'animation, de grands films. Puis il y a une tradition, je pense, dans cette partie de l'Europe, de faire des films visuels, des contes de fées, des choses comme ça. Donc au niveau visuel, on trouve énormément de gens qui ont énormément de talent. Je dirais qu'ils sont au même niveau que n'importe qui d'autre dans le monde. Au niveau informatique, c'est un petit peu plus difficile. On n'a pas, si on compare par rapport au système français, des écoles d'ingénieurs informatiques où on peut identifier une formation, un set de compétences. Ici, c'est l'université. C'est pas toujours évident d'arriver à identifier les gens. Donc, on trouve beaucoup de gens qui ont du potentiel. Mais c'est vrai que notre travail de recrutement, il est beaucoup plus précis, il est beaucoup plus long. Les tests et l'identification des gens, c'est plus compliqué que ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays. Ouais.
Alors, mais maintenant, vous êtes une vraie équipe internationale.
Alors aujourd'hui, on est une équipe internationale. Donc sur les 200 personnes, on a plus de 80% de gens qui sont tchèques, avec des gens qui sont avec nous depuis longtemps et beaucoup de turnover. On embauche 2 personnes par mois. Donc on essaie vraiment de donner leur chance aux jeunes tchèques. Et puis 20% sur une dizaine de nationalités, des gens qui viennent du côté est de l'Europe et puis des gens qui viennent de l'ouest. On est aujourd'hui une quinzaine de Français, par exemple, à l'intérieur du studio.
Comment ça se passe pour organiser, manager une équipe internationale ?
Alors ce qui est difficile pour nous, et je pense la difficulté en République tchèque, c'est vraiment la barrière de la langue. Je pense que pour nous d'apprendre le tchèque, mais comme pour eux d'apprendre le français, c'est quelque chose qui serait vraiment délicat. Là où on a beaucoup de soucis, c'est que comme ils sont à l'origine des jeux, qu'on a beaucoup de débats sur la direction artistique, sur le design, sur l'histoire, sur les orientations créatives qu'on doit avoir. C'est vrai qu'on arrive à échanger de manière constructive, bien se comprendre, être bien certain de ce qu'on fait. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Donc sur ça, on a quand même une barrière de la langue. Après, l'aspect international, ça aide. Parce que je pense que les Tchèques ont d'excellentes intuitions, mais ils n'ont pas forcément une connaissance très précise des goûts et des envies des gens, je vais dire de l'Ouest, sans que ce soit péjoratif, mais de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, là où le marché du jeu vidéo est, en fait, nos consommateurs sont là. Donc l'apport de gens qui viennent de ces pays-là, qui peuvent leur expliquer que les jeux, il faut que ce soit facile, c'est important que ce soit beau, ça crée une dynamique qui est plutôt positive.
Alors la République tchèque, j'imagine, est un tout petit marché du jeu vidéo dans le monde, mais est-ce que c'est un marché qui est en développement ? Quelles sont, on va dire, ses caractéristiques ?
Alors, le marché tchèque du jeu vidéo, c'est vraiment un tout petit marché, ça c'est certain. Ses caractéristiques principales, c'est d'être beaucoup un marché PC, pas tellement un marché console, parce qu'aujourd'hui, il y a un ticket d'entrée pour les consoles qui est quand même assez élevé. Vous prenez une console, plus l'abonnement online, plus un jeu, ça va faire 200, 300, 400, 500 euros assez rapidement. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas adapté, je pense, au pouvoir d'achat moyen des gens en République tchèque. Par contre, sur PC, c'est quelque chose qu'on a pour Internet. On trouve des jeux qui sont à des prix très raisonnables. Donc le marché tchèque, la culture jeu tchèque, elle est sur PC, pas forcément sur les dernières sorties, mais sur des très très bons jeux d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, qui sont vendus à des prix très raisonnables.
Alors, Mafia 1 a été créé, ou a commencé à être créé il y a une dizaine d'années maintenant. Vous m'avez dit que de fabriquer un jeu vidéo, ça prend beaucoup de temps, c'est un long processus. Vous venez de sortir un deuxième épisode de Mafia. Est-ce que vous espérez le même succès? Comment se présentent, on va dire, les premières semaines de sortie de ce nouvel épisode?
Depuis que Mafia 2 est sorti il y a quelques temps, je pense que la période de Noël est terminée, donc on a une bonne idée du succès. Je suis content et assez fier de vous dire que le succès de Mafia 2, il est vraiment dans la droite lignée de Mafia 1. On a réussi à faire cette transition qui n'était pas facile, puisque il y a 10 ans sur PC, le marché avait certaines attentes en termes de difficulté, de contenu, de type de jeu. Donc pour nous, ce qui était important, c'est de rester fidèle au premier, tout en apportant un design, une conception qui soit adaptée aux attentes des gens aujourd'hui. Et apparemment, si je regarde les chiffres de vente, j'ai l'impression que les gens ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans le jeu. Donc on est vraiment dans cette droite ligne-là, et que ce soit l'équipe de développement fière de son travail, je pense moi en tant que président de la société, j'en suis aussi content, et je pense à mes actionnaires américains, eux aussi, je pense qu'ils ont l'impression qu'il y a quelques années, quand ils ont décidé d'investir en République tchèque, c'était vraiment une très très bonne idée, et qu'aujourd'hui on a envie de continuer sur cette dynamique.
C'est déjà la fin pour aujourd'hui du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et à très bientôt. Ahoy.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1:30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.